Bonsoir à toutes, à tous. Nous sommes dans la troisième et dernière partie du cours et nous traitons de la troisième question de la théologie fondamentale, la première. La foi chrétienne, qu'est-ce que c'est quoi? Deuxième question apologétique, pourquoi y adhérer? Et donc la troisième question, comment? Alors dans le premier chapitre, j'ai montré à nouveau que l'identité de la tradition chrétienne reste toujours à déterminer, à redéterminer, à réinterpréter selon la définition de la théologie qui se greffe sur la définition de la tradition chez l'apôtre Paul, participer activement au mouvement même de la tradition chrétienne, et il y a toujours ce double geste, en la recevant et en la réinterprétant. Pour, voilà le critère, permettre à l'homme d'aujourd'hui de faire une expérience authentique, on pourrait dire orthodoxe, authentique, de Dieu. Alors, comment réinterpréter? Comment recevoir? Et comment réinterpréter aujourd'hui? Alors, nous avons une sensibilité sans doute un peu nouvelle à l'inculturation, à l'enracinement, donc l'expérience authentique de Dieu est toujours l'expérience d'aujourd'hui dans un contexte culturel. Comment discerner? Et ça, c'est donc le deuxième chapitre qui nous donne les règles d'interprétation, du discernement. Quelles sont les règles du discernement de l'identité chrétienne? Régulation qui a une longue histoire, donc c'est le titre du deuxième chapitre, mise en place et contestation des instances de régulation. Et traditionnellement, on en parle de trois instances que nous avons déjà pratiquées dès la première séance. Bien sûr, l'écriture, la tradition. Et donc, ce double versant, la tradition, c'est à la fois ce qui est transmis, donc ce qui est à recevoir et à redonner, à réinterpréter. Et la tradition, c'est aussi des églises, des personnes, des tradentes qui transmettent. Voilà. Toujours intimement liés les deux. Donc l'écriture, la tradition et finalement les instances, disons-le d'une manière pour le moment globale, magistérielle, disons l'autorité qui a d'une certaine manière le dernier mot, pourrait-on dire. Donc les conciles, etc., etc. Donc le magistère, les trois instances. Et donc j'avais déjà annoncé que ce chapitre reprend le parcours historique au fond de la tradition chrétienne, que nous avons déjà plusieurs fois abordé, à la fois dans le premier chapitre et dans le deuxième chapitre, mais déjà dans l'introduction. Et donc, il y a plusieurs phases historiques dans la construction, si je puis dire, la composition progressive de ces règles de discernement de l'identité chrétienne, de ces instances. Et nous avons déjà visité la dernière fois les deux premières phases. Et je vous propose, pour résumer cela très rapidement, de regarder le schéma qui se trouve à la page 60, qu'on pourra décoder ensemble. Vous voyez le titre de ce schéma 3, hein, qui correspond au troisième chapitre, ou à la troisième partie de ce cours, la mise en place progressive des instances de régulation. Et donc, première phase, deuxième phase, troisième phase. Donc, voyez la composition, la mise en place, la composition progressive de ces règles, de ces systèmes de régulation, procède par explicitation. Tout est déjà au début. Tout est là déjà au début. et progressivement, en fonction des étapes historiques, les choses se précisent. Alors la première phase, c'est évidemment la phase qu'on pourrait appeler néo-testamentaire, donc les communautés primitives au pluriel, les églises, et j'avais parlé ici de trois instances. Je les mets ici en schéma un peu dans un ordre différent. Les écritures, j'ai mis entre guillemets avec cette flèche parce que un texte évidemment a une linéarité. Vous voyez, les écritures, c'est ce que nous appelons évidemment aujourd'hui l'Ancien Testament. C'est les écritures de, citées par Paul, que Paul cite, dont Paul vit, Jésus lui-même selon Luc, etc. Les écritures, et qui deviendront ensuite, évidemment, le canon des Écritures. Mais ils ne le sont pas encore, même si le canon juif existe déjà d'une certaine manière. Alors, l'autorité centrale, c'est celle du Seigneur lui-même, sa présence, et l'autorité dérivée, c'est celle des apôtres. Mais, je dirais, ces autorités, l'Écriture et les apôtres, n'existent que parce qu'il y a déjà des communautés, des églises. L'église qui est à Corinthe, qui est à Thessalonique, vous voyez, Paul s'adresse à l'église au singulier, mais toujours lié à un lieu, les églises. Et donc ces églises qui reçoivent évidemment les Écritures, mais qui se reçoivent d'abord, je dirais, l'interprète par excellence. Nous le voyons chez Luc, ils leur interprètent tout ce qui le concernait, les disciples d'Emmaüs, vous voyez, le Seigneur lui-même et les apôtres choisis par lui ou Paul, etc. Je n'entre pas dans les détails, c'est pas le moment maintenant. Et donc les communautés, tous ces autorités, écritures ou apôtres, n'existent que en tant que reçus, en tant que reçus. Mais en même temps, ce sont des vraies autorités. Donc on est là dans le laboratoire des communautés primitives. Et alors la deuxième phase, qui est une phase, vous voyez, tout à fait décisive, je dirais, on peut nommer ici deux marqueurs, à la fois la figure de saint Irénée, dont je vous ai parlé un certain nombre de fois, avec les textes que vous avez, et le cinquième concile œcuménique, 553, où, je dirais, les institutions sont là, ils sont déjà là. Et donc, les choses se complexifient quelque peu, même si c'est la même chose. Donc, ce sont les églises, je commence par en bas, Rome, Antioche, Alexandrie, etc., les patriarcats, les églises, qui reçoivent et qui redonnent, c'est-à-dire, ils reçoivent, ce sont eux les sujets de l'acte de transmission, qu'ils reçoivent ce qui est transmis, voyez, et le redonne et l'interprète. Donc il y a un acte de réception et un acte de redonner. Alors qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent évidemment maintenant le canon des Écritures qui existe quasiment déjà à partir de saint Irénée, mais je vous ai montré la dernière fois qu'il est codifié au IVe siècle, les différentes synodes. Alors l'Ancien et le Nouveau Testament, on a déjà la distinction. Ils reçoivent, je dirais, les autorités apostoliques. Mais les apôtres ont disparu et c'est les presbytres, comme dit saint Irénée, c'est l'épiscopat et c'est les successeurs des apôtres, voyez, qui prennent d'une certaine manière leur place en renvoyant aux apôtres. Et donc ces successeurs qui commencent à se réunir dans des synodes et des conciles, voyez, la célèbre formule de saint Irénée, chacun pour lui-même et tous ensemble, vous rappelez, j'ai beaucoup cité ce texte chez saint Irénée, en l'Évangile. Et donc quand il y a des problèmes qui se posent, c'est évidemment dans des synodes et des conciles qu'il faut les régler. L'institution conciliaire date du IVe siècle, évidemment avec Nicée, Constantinople, etc., dès que l'Empire permet des réunions universelle, œcuménique. Voilà, ce sont donc des institutions, et j'ai terminé la dernière fois en parlant de la figure des pères. Les pères, Donc c'est Vincent de Lérins qui est la première occurrence au fond de cette autorité. Donc vous voyez, vous avez l'écriture, la tradition. La tradition, ce sont des églises aussi qui transmettent. Le canon des écritures, la tradition, c'est des autorités et le magistère, ce que nous appelons aujourd'hui magistère, grosso modo depuis le XVIIIe siècle, se situe à l'intérieur de cette tradition. Alors, j'ai terminé la dernière fois, nous sommes maintenant à la page 45, très rapidement, au fond que dès le IVe siècle apparaît quelque chose avec Saint-Hilaire, dont c'est la fête aujourd'hui, apparaît déjà quelque chose, je dirais, très conflictuel, c'est-à-dire au fond ces institutions qui se sont mises en place ne permettent pas de régler tous les conflits. Et vous avez au fond les quatre grandes positions que je vous ai déjà indiquées dans la première partie du cours. Revenez à la page 19, tout à fait en bas, le point C. Vous voyez, je me réfère ici au 5e concile de Constantinople, 553, un des deux marqueurs. Et le point C, les déplacements et les conflits se provoquent. Le 4e, 5e siècle sont des conflits ecclésiaux, des deux siècles extrêmement conflictuels, autour de la question de l'identité du Christ, évidemment, et aussi de la figure de l'Église. Et vous avez, alors notamment chez le premier Hilaire, un grand scepticisme par rapport à toute formule, parce qu'on se combat à coups de formule, vous voyez, d'une certaine manière. Vous voyez, comme si le catéchisme était vraiment l'unique moyen d'orthodoxie, vous voyez. Et donc Saint-Hilaire, il dit, non, là ça va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. La foi, c'est pas ça, quand même. Alors, vous avez évidemment d'autres qui, dans ce combat, notamment au Concile d'Éphèse, dit « Nicée suffit. Tout s'y fait, tout Nicée, rien qu'un Nicée. » Et on voit bien que ça risque aussi de devenir, à un moment donné, un fondamentalisme, parce que l'histoire est là, et il faut recevoir et réinterpréter. Il y a des nouvelles questions qui émergent. Et donc, apparaît au 5e siècle, l'idée de l'insuffisance de la lettre du symbole de Nicée face à des conflits nouveaux, et donc l'idée d'un développement. Et vous trouvez ça déjà, je ne vais pas le relire maintenant, chez Vincent de Lérins. Dans le dossier, vous allez re-regarder, Vincent de Lérins est un des premiers qui a introduit l'idée de développement, en faisant une analogie avec ce qu'est l'être humain. Le petit bonhomme, etc., la petite bonne femme, je dirais, se déploie, se développe, reste toujours identique. La personne à elle-même et en même temps se développe. L'idée de développement. Donc légitimité et la distinction entre ordinaire et extraordinaire. Ordinairement, il suffit de confesser le symbole baptismal. Mais extraordinairement, c'est-à-dire quand il y a vraiment crise, il faut reformuler, réinterpréter. Voilà. Et il y a des gens, et pas les moindres, comme par exemple chez Origène, on trouve quelque chose comme ça, mais aussi chez Grégoire de Nazianze, c'est-à-dire qui parlent même d'un développement de la révélation elle-même, quatrième position. Il y a l'âge du Père, dira Joachim de Flore, l'âge du Fils et finalement l'âge de l'Esprit, progression. Donc vous voyez, les conflits sont effectivement là, d'où ma formule. Donc les institutions ne parviennent pas à les résoudre. Et alors évidemment, en 1054, c'est la séparation entre les deux poumons de la chrétienté, comme on aime bien dire aujourd'hui, les deux églises sœurs de l'Orient et de l'Occident, les divisions. Et même à l'intérieur de l'Église latine, c'est les grandes divisions. Et donc, je vous ai parlé déjà la dernière fois du grand schisme de l'Occident. Donc, en bas de la page, l'exécrable Trinité, trois papes en même temps, pendant quand même, je dirais, une trentaine d'années, 78, 14, 17, même plus. et la tentative de s'en sortir par un concile. Et au fond, si vous voulez, c'est la crise de toutes les institutions. De toutes les institutions. Elles deviennent fragiles. Elles sont découvertes comme ce qu'elles sont, extrêmement fragiles. Et vous voyez, même dans l'iconographie, c'est marqué, on passe du Christ en majesté, que nous voyons dans nos cathédrales, dans les basiliques de l'Orient, tout d'un coup apparaît le Christ crucifié, je dirais avec ses marques, je dirais de flagellation, etc., le Christ de la peste, et c'est le Christ humilié, voilà, qui devient véritablement la référence, et émerge avec force l'idée de réforme. L'idée de réforme. Un nouveau critère, vous voyez, ça c'est le point 2, la contestation des instances de régulation et le critère de réforme. De certaine manière, nous y sommes de nouveau. Donc un critère théologal qui nous est proposé ici, la vérité, voilà, c'est une église semper reformanda, comme on disait déjà à l'époque, toujours à réformer. Vous voyez, je reviens, n'est-ce pas, au premier chapitre, en voie d'unification, en voie d'apostolicisation, en voie de sanctification, Congar, en voie de catholicisation, la réforme. Et ici surgit, si vous voulez, dans la conscience, une question qui est un peu nouvelle, hein, qui était portée jusqu'alors par une certaine évidence, mais quand les divisions sont tellement graves, et qu'est-ce qui est plus grave, je dirais d'une certaine manière trois papes en même temps, hein, c'est-à-dire ça montre quand même que l'institution sur laquelle on croyait pouvoir s'appuyer, elle n'existe plus d'une certaine manière. C'est quand même une grande gravité. Donc il y a deux points ici à souligner. Il y a d'abord un double raisonnement qui va donner un double principe. Le site de la vérité absolue dans l'histoire est l'acte de foi de l'Église universelle. La catholica, l'Église universelle, pas à identifier avec l'Église catholique romaine, infiniment plus large, parce que cette identification entre catholiques et romains se fait seulement à partir du XVIe siècle, à la fin du Concile de Trente. La catholica, là où il y a la foi, voilà la définition, l'espérance et la charité, dans un acte d'autoréforme et de conversion continuelle, sainteté, collective, au fond le terme de conversion devient collectif. Le terme réforme, c'est appliquer le terme conversion qui est d'abord individuel, convertissez-vous, à un collectif. Voilà. C'est ça là, l'idée de réforme. Là où il y a la foi, l'espérance et la charité, dans un acte d'autoréforme et de conversion continuelle, là est la catholica. Seule cette catholica est infaillible, l'Église. Vous voyez, ça c'est le terme nouveau qui apparaît ici. Quand tout est faillible, qu'est-ce qui est infaillible? C'est la foi, l'espérance et la charité. Parce qu'en raison de son lien spirituel au Christ. Donc l'Église de Christ, voilà, est infaillible dans son universalité. Du premier jusqu'au dernier, Vatican II va le reprendre. Et surtout les derniers, on retrouve ça encore dans Evangelii Gaudium. Elle possède avec la charité et la sainteté aussi la connaissance de ce qui est vrai. Donc ce lien intime entre 1 Corinthiens 13, la charité, rappelez-vous la formule de saint Irénée, et par-dessus tout la charité, qui est le lieu de la vérité, la connaissance de la vérité. Et c'est là où on se trouve, si vous voulez, il y a un principe qui émerge ici, chez Jean de Ségovie, donc un Espagnol, la différence entre le Sanhédrin et le magistère néo-testamentaire. Magistère, le terme apparaît pas de cette manière-là encore, c'est-à-dire l'enseignement dans le Nouveau Testament. Le Sanhédrin, donc Deutéronome 17, est sans cesse corrigé par l'esprit des prophètes. Alors là, dit Ségovie, de Jean de Ségovie, le magistère néo-testamentaire, et il se réfère ici à Acte 15, donc vous voyez ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, est devenu lui-même prophétique, attention, dans l'infaillible acte de foi, d'espérance et de charité. Parce que Dieu s'est révélé une fois pour toutes, je reviens au concept ici de révélation, qui fonde cela. Alors, il faut absolument distinguer, si vous voulez, je dirais donc, ces deux idées, foi de l'Église universelle, foi, espérance et charité, et l'idée d'infaillibilité, avec le deuxième point, pour que c'est là le deuxième principe, maintenant, pour que cette vérité de la foi, de l'espérance et de la charité de l'Église universelle reste discernable dans l'histoire. Vous voyez, ce n'est pas uniquement dans les cœurs, mais il faut pouvoir le dire à un moment donné quand il y a des conflits. Il faut une instance de jugement. Donc vous voyez, l'instance de jugement est second, non pas secondaire, mais second, et elle a l'unique fonction de maintenir discernable dans l'histoire cette foi qui dépasse évidemment toute institution et toute instance. Voilà. Il faut que dans la Catholica, dans cette universalité des croyants chrétiens, l'Église du Christ, il faut une instance ou des instances. Et donc ce double principe fondamental, je le dis, l'infaillibilité de l'Église, de la foi, de l'espérance et de la charité, et la nécessaire discernabilité de la vérité, aide à distinguer des institutions de vérité. Ensuite, si ce principe est accepté, ce double principe, on peut discuter de la figure concrète des institutions de vérité. Quelles sont les institutions de discernement ou de jugement? Alors, attention, au service de la foi de la Catholica. Les institutions au service. Alors, c'est là où apparaît, on est déjà maintenant, si vous voulez, on rentre dans la dernière phase de cette construction institutionnelle du christianisme. C'est là où apparaît le débat sur la troisième instance. Donc vous voyez, jusqu'à maintenant, on a eu la tradition, évidemment l'écriture d'abord, seule l'écriture est inspirée, la tradition, c'est-à-dire c'est l'écriture reçue par les églises et continuellement réinterprétée aujourd'hui, recevoir et livrer et réinterpréter. Et à l'intérieur de la tradition, on a eu déjà, si vous voulez, la figure de l'ordinaire et de l'extraordinaire, c'est-à-dire les synodes, les conciles, etc. Et maintenant, c'est ce point-là qui commence à se préciser, le synode et les conciles, et l'évêque, quand vous en avez trois, l'évêque de Rome, quand vous en avez trois, le problème commence à se poser. Et c'est le concile qui règle la question, le concile de Constance qui règle la question. Donc, c'est le débat sur la supériorité de l'autorité conciliaire ou de l'autorité pontificale. En même temps, on commence à préciser les conditions du jugement, de l'instance de jugement infaillible. Donc, il ne s'agit pas de l'infaillibilité de la foi, mais des instances. Est-ce que les instances sont infaillibles? Et la question se pose très concrètement, est-ce que même le pape doit obéir au concile? Donc les trois, un qui a pris la fuite, l'autre il est à Rome, le troisième il est en Espagne, donc on va leur imposer d'une certaine manière l'obéissance au concile. Donc vous voyez, l'infaillibilité est juridique ici, c'est ça que ça veut dire d'abord. Obéir à une instance ultime dans une situation de vie et de mort. Pour la chrétienté, de vie et de mort. Alors, est-ce que c'est la sainteté des pères conciliaires? Très rapidement, on va dire non, ils sont tous sauf ça. Hein? Ah oui. Est-ce que c'est simplement le fait que les pères conciliaires de Constance, donc les évêques, mais il y a aussi des avocats, des théologiens, des juristes, des canonistes, qu'ils représentent l'Église légitimement. C'est les cinq nations d'ailleurs à l'époque. Chaque nation a une voix. Donc c'est la Germanie, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Angleterre et c'est la Pologne. Donc la Germanie, c'est le Saint-Empire romain-germanique. On est dans une toute autre géographie qu'aujourd'hui, vous voyez. Chaque nation a un vote, une voix. C'est remarquable. On se met d'accord grâce à un prince qui est le garant de la sécurité. Alors, où est-ce que c'est finalement le consensus? Et donc, on va dire c'est le consensus. Vous voyez, cette notion qu'on trouve déjà chez Vincent de Lérins. Le consentir, s'entendre. Et quand des frères, rappelez-vous la magnifique formule du 5e concile de Constantinople qui dit déjà cela, le consensus. Donc ça, c'est un premier débat. Et le deuxième débat porte alors sur le rapport entre ce magistère et l'Écriture. Est-ce que l'interprète... Si l'Écriture sont d'abord infaillibles... L'écriture, cela, il n'y a pas de doute là-dessus chez tout le monde. Ils sont, les écritures, c'est le canon des écritures, ils sont inspirés, elles sont inspirées, et donc, si on veut trouver la vérité, c'est là. Mais les écritures, il faut les interpréter. Il faut les interpréter. Vincent de Lérins l'avait déjà dit. Donc, est-ce que l'instance conciliaire ou magistérielle participe de l'infaillibilité des écritures? Et donc, chez beaucoup, il y a la présomption, chez beaucoup, il y a le refus de la présomption d'infaillibilité. Il y a le consensus, peut-être, qui est infaillible. Alors, vous avez en face, presque un siècle après, grosso modo un siècle après, évidemment, la position de Luther, et qui est très intéressant, parce que ici, ce n'est pas le consensus. Parce que Luther dit à juste titre de concile de Constance, ils ont quand même brûlé Hus. Vive. Pouf, mon Dieu, rappelons ça nous aujourd'hui quand même. Voilà. On a une sacrée ardoise quand même dans la tradition chrétienne, hein, de ce point de vue. Oui, faut vraiment le reconnaître. Alors du coup, comment dire ce que Luther va dire? Non, ce qui est infaillible, le principe, c'est la voix vivante de l'Évangile qui parle à la conscience. Vous rappelez le texte que je voulais citer. Qui parle à la conscience. L'Écriture, et qu'est-ce que c'est l'Écriture? Il faut pas simplifier la position de Luther. C'est l'Écriture seule, ça veut dire c'est la foi apostolique une fois pour toutes, plurielle, toutes, une fois pour toutes données. L'Écriture est l'unique instance qui, elle, juge les conciles et qui juge les traditions et toute prédication. Mais Luther ne peut pas éviter quand même la question, mais qui juge de l'interprétation de la conscience? Il y a une pluralité. Donc on ne peut pas éviter non plus l'idée de consensus. Vous voyez, dans mon schéma, vous avez ça tout à fait en bas. D'un côté, le consensus, c'est-à-dire ce que Vincent de Lérins appelle le consentement unanime, et de l'autre côté, vous avez la conscience individuelle. Et les deux sont en tension à la page 60, le schéma, tout à fait en bas. Donc là, il y a un rude problème. Donc à la question, donc vous avez ça dans le schéma. Donc d'une certaine manière, le XVIe siècle, la réforme, l'écrit de Luther sur les conciles, et la réaction de Trente, grosso modo à la même époque, donc je reviens plus au concile de Trente parce qu'on en a longuement déjà parlé, c'est au fond les deux positions qu'on peut d'une certaine manière dialectiser, c'est-à-dire mettre en relation, en tension, parce qu'il faut les tenir toutes les deux. À la question « Qui juge en dernière instance du vrai ?», Luther renvoie sans détour à la voie de l'Évangile. La voix, voilà, du Christ, au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La voix de la justification. Mais la question qui juge de la vérité, de l'interprétation de l'Évangile, ne peut pas être éludée. Luther renvoie ici, c'est sa terminologie, la claritas, la clarté de l'écriture qui s'interprète elle-même. Ah, ça c'est peut-être quand même une illusion. Quand même. Parce qu'un texte n'existe que en étant interprété par des interprètes. Et un pluriel, évidemment. Le Concile de Trente reconnaît parfaitement l'ultime instance de l'Évangile. La pureté, vous rappelez de la formule, à sauvegarder, c'est dans votre dossier, mais il désigne en même temps les références qui permettent de juger de son interprétation authentique dans l'Église d'aujourd'hui. Donc les livres écrits, et là il concorde évidemment avec Luther, et il ajoute les traditions non écrites parvenues jusqu'à nous maintenant. Et ça c'est la limite du Concile de Trente, parce que on trouve tout et son contraire parmi les traditions, évidemment. Et donc, voyez, on est ici dans ce qu'on appelle un cercle d'interprétation, dans une difficulté. Ce que je viens de dire, c'est Josef Ratzinger lui-même qui l'a dit pendant le concile, il était théologien au concile du cardinal Frings, et avec Karl Rahner, il a fait un petit livre sur la tradition, et c'est Josef Ratzinger qui fait une relecture du concile de Trente, et qui est en même temps une relecture critique, qui dit exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire le concept de tradition est ici trop flou au Concile de Trente. Quand on dit simplement les traditions non écrites parvenues jusqu'à nous, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il faut une instance critique. Voilà, vous voyez, on est maintenant, je dirais déjà au début de la modernité, donc la troisième phase continue. Et si vous voulez, à l'incertitude que je viens de dire, comment articuler d'un côté les droits de la conscience, donc fortement soulignés par Luther à juste titre, et la nécessité d'un consentement unanime, le consensus. Donc vous voyez tout le problème, tout le problème. Et s'ajoute maintenant à cela encore un autre problème, mais qui est le même, mais explicité, vous voyez, c'est la question de l'histoire, les incertitudes de l'histoire et la recherche historique. Et donc, on va entrer dans une critique de plus en plus forte des instances, et non pas seulement de la tradition, mais de l'écriture elle-même. Page 47, voyez, je rappelle simplement ce que j'ai dit déjà à deux reprises, premièrement dans la partie d'introduction, et ce que j'ai repris dans le premier chapitre de la première partie. La Bible devient un objet culturel, une production historico-culturelle de sens. Donc l'inspiration n'est plus garantie d'emblée, et l'infaillibilité de la Bible est contestée. Parce qu'évidemment, la Bible répond à une vision du monde et qui n'est plus celle de l'héliocentrisme, du tournant copernicien, etc. Donc comment interpréter? Elle peut être lue par le spécialiste. Selon les méthodes utilisées pour tout texte, elle se trouve entre les mains de quiconque, la Bible. Vous rappelez la figure de quiconque. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'Église catholique réagit en ajoutant, donc vous rappelez la relecture que fait de toute cette histoire le prologue de Dei Filius, que je vous ai longuement commenté dans la partie d'introduction, en ajoutant un élément ultime maintenant à la Demonstratio Catholica, l'autorité infaillible du magistère ecclésial comme rempart ultime contre la relativisation historique de tout ce qui est définitif. Finalement, l'ultime rempart. Ça vous explique maintenant un tout petit peu, après coup, vous voyez comment les choses sont venues. Et c'est donc la célèbre constitution Pastor Eternus du Concile Vatican I, avec la déclaration de l'infaillibilité pontificale, et, annexe 20, et donc la page 107 suivante de votre dossier. Alors, il y a ici, si vous voulez, quelques faits d'abord, et ensuite, je vais commenter l'essentiel de ce texte, pour que nous fassions au moins pas d'erreur d'interprétation. tout en sachant que Vatican II n'a pas nié Vatican I, mais l'a complété. Parce que nous allons rapidement voir, à Vatican I, le bateau sur lequel les gens à l'intérieur du bateau croient qu'on tire contre un côté, et donc ils tentent de rééquilibrer, et finalement quand on regarde, le bateau est en train de tanguer d'une certaine manière ou de pencher d'un côté. Et donc à Vatican II, on trouvera un rééquilibrage. Donc ça c'est très important de dire, nous pouvons dire ça aujourd'hui, quand on est au fort même de la difficulté, on fait ce qu'on peut d'une certaine manière. On fait ce qu'on peut. Alors, les faits historiques. Donc, le débat conciliaire se déroule entre 6 mars et le 13 juillet 370. Je vous rappelle aussi, ensuite, le concile, à cause de la guerre franco-allemande, a été suspendu. Et regardez ici les votes. Évidemment, 2/3 sont atteints. Mais quand même, il n'y a que 451 plagettes sur 601 évêques. Donc à Vatican II, ils étaient 2300-500. Donc il y a 2/3, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, 62 juxtamodum qui veulent transformer le texte et 88 non-plagiat. Alors à Vatican II, sauf quelques voix, toujours on arrive quasiment à l'unanimité morale. Donc vous voyez, ça vous dit déjà d'emblée dans les faits un déséquilibre. Alors, le 16 juillet, Mgr Gasser, qui est l'évêque de Brixen, Tyrol du Sud, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par cette charmante ville extraordinaire, c'est très très beau, sud du Tyrol, et c'est un excellent théologien, et donc il tente d'équilibrer les choses, et c'est pour ça que je vous ai donné le texte, qui est au fond, je dirais, le texte, il est rapporteur officiel d'interprétation, qui vient tout de suite après. C'était un exposé de 3 heures devant le concile, mais vous avez les éléments les plus importants. Le 18 juillet, ultime vote et proclamation solennelle, mais attention, les évêques de la minorité, une centaine sont déjà partis en train. C'était musclé, hein? Vous voyez, on a une vision tellement irénique de la vie de l'Église, et c'est vrai, depuis Vatican II, même bon, s'il y a des conflits, mais que des évêques convoqués au Concile ne participent pas au vote ultime parce qu'ils ne sont pas d'accord et ils sont partis. Alors on raconte qu'il y a un énorme orage qui s'est abattu sur Saint-Pierre au moment de la proclamation solennelle des pluies diluviennes, orage, tonnerre, et toute la presse européenne titre, n'est-ce pas, Dieu a parlé et le concile a parlé. Alors il faut quand même dire, après, même Newman, qui n'est pas venu au concile, le célèbre Henri Newman, déjà cardinal, et les évêques de la minorité se sont ralliés ensuite au texte, sauf une petite minorité, comme on appelle les vieux catholiques, qui sont d'une église, hein, la communauté d'Utrecht, etc. Donc, je pense que ça fait partie quand même de l'interprétation même du texte. Et c'est comme une sorte d'avertissement historique. Attention, n'absolutisons jamais un concile et un texte. Saint-Hilaire nous revient à l'esprit. Alors, quels sont les différents? Alors, je vais vous lire le prologue. Donc, j'avais indiqué à la page 107, l'éternel pasteur, donc pastor eternus, est gardien de nos âmes, c'est une citation, pour perpétuer, c'est le Christ, l'œuvre salutaire de la rédemption, a décidé d'édifier la Sainte Église, dans laquelle, comme en la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient rassemblés par le lien d'une seule foi et d'une seule charité. C'est pourquoi, avant d'être glorifié, il pria son Père, non seulement pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui croiraient en lui, à cause de leurs paroles, pour que tout soit un comme le Fils et le Père soient un. Vous voyez, ça c'est la filanité, l'unité. De même qu'il envoya les apôtres qu'il s'était choisis dans le monde, comme lui-même avait été envoyé par le Père, donc l'apostolicité, de même il voulut qu'il eût en son Église des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Donc enseigner, baptiser, et voilà, et rassembler, donc le texte de Matthieu 28, 20. Pour que l'épiscopat fût un et non divisé, pour que grâce à l'union étroite et réciproque des pontifes, donc c'est un terme ancien, utilisé aussi pour Vatican II, pour parler des évêques, la multitude entière des croyants fut gardée dans l'unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres. Et ça, c'est un point qui sera fortement corrigé à Vatican II. Parce que vous avez encore entendu le pape François le dire, le sup et cum Petro, sous Pierre et avec Pierre et sous Pierre, sous et avec. Il établit en sa personne, le Pierre, le principe durable et le fondement visible de cette double unité. Sur sa solidité se bâtirait le temple éternel, et sur la fermeté de cette foi s'élèverait l'Église, dont la grandeur doit toucher le ciel. Il s'agit de l'Église. Donc, c'est la foi qui est le fondement ici, mais la foi de Pierre. La foi de Pierre. Donc, on parle dans ce texte de la foi de Pierre. Alors là, il y a évidemment, si vous voulez, une première grande controverse parmi les pères conciliaires qu'il faut souligner. Je vous ai mis les points essentiels. Il y a d'abord à constater, ce que rappellent déjà à l'époque les historiens et les pères de la minorité, une évolution du concept de primauté, principatus ou principe. Vous voyez, c'est les termes qui sont utilisés. Dans l'Antiquité, Ignace d'Antioche, l'Église de Rome préside à la charité. Et c'est le cas aussi chez saint Ignace. Elle préside à la charité. C'est le principatus de l'Église de Rome. Et progressivement va se transférer, les historiens l'ont montré, le principatus, ce qui est dit de l'Église de Rome, à celui qui est dans la chair de Pierre, le pape, et qui devient ici le principe et le fondement de l'Église. Et ce qu'on appelle l'ecclésiologie ultramontaine. Alors ça, c'est évidemment, je dirais, les Français et les Allemands qui ont trouvé ce terme. Ultramontaine, ça veut dire au-delà des Alpes. Donc une ecclésiologie uniquement orientée vers l'au-delà des Alpes. Ça, c'est une ecclésiologie ultramontaine et qui est inventée par les Français et les Allemands après la Révolution française. Je veux dire, c'est au moment de Napoléon que pour la première fois de l'Église, dans l'histoire de l'Église, un évêque de Rome détrône, si je puis dire, la moitié de l'épiscopat français et met une autre moitié à la place. Ça, c'est la crise, n'est-ce pas, de la Révolution française. Jureur, non-jureur, le concordat. Et ça, les historiens le montrent, a donné, je dirais, à Rome, c'est à partir de ce moment-là que Rome commence à intervenir très, très fermement dans la nomination des évêques. Parce que Rome commence à être considérée, c'est ça l'ecclésiologie ultramontaine, comme l'unique protection contre la néfaste Révolution française, l'athéisme, etc. Vous rappelez le prologue de Deiphilus, l'ecclésiologie ultramontaine. Et du coup, va se produire quelque chose de difficile pendant le concile, que je rappelle ici. Donc, on discute d'abord de Deiphilus, texte que nous avons lu. Et ensuite, il y a sur la table du concile un énorme texte d'Ecclésia sur l'Église. Et on commence avec la deuxième partie de ce texte, c'est-à-dire sur le pape. Et vous voyez, c'est l'inversion. Tandis que la minorité a dit, il faut d'abord parler de toute l'Église et des évêques aussi, ensuite on va parler du pape. Et c'est ce Vatican II qui va faire ça. Donc ça, c'est, si vous voulez, le premier débat. Et ensuite viennent les trois chapitres de la Constitution, les trois premiers chapitres, donc je vous renvoie de nouveau à la page 116 de votre dossier, je crois que c'est ça, non 107, pardon, mais à la page 116, vous avez un plan. Voyez, regardez rapidement ce plan. Voyez, c'est très intéressant, ce petit plan. C'est le dernier, la dernière page du Polycope. Vous avez donc le plan de Pastor Eternus. Et je vous ai mis ensuite, Vatican II, Lumen Gentium, le chapitre 3, sur l'hiérarchie de l'Église. Et vous voyez là comment dans le chapitre 3, tous les thèmes de Pastor Eternus sont repris et réinterprétés, rééquilibrés. Donc je vous invite de faire un peu vous-même la comparaison parce que vous avez les textes. Mais alors vous voyez, on vient de voir le premier problème, le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église. Est-ce que c'est le pape qui est le fondement? Et non. Non, bien sûr, il est. Et là, il y a des très belles distinctions qui sont introduites dans, le chapitre numéro 18 du chapitre 3 de Lumen Gentium. C'est le Christ qui est le fondement, la pierre angulaire. Et ensuite, selon les actes, l'Église est bâtie sur les apôtres et à l'intérieur des apôtres, alors là, on cite beaucoup Matthieu, évidemment, sur Pierre. Donc c'est une formule très équilibrée que vous trouvez dans le chapitre 3, le numéro 18 de Lumen Gentium. Alors, le chapitre 1 maintenant, de Pasteur Eternus, s'intitule « L'institution de la primauté apostolique en Saint-Pierre ». Alors là, c'est tous les textes d'écriture qui concernent Pierre qui viennent. C'est le chapitre 1. Donc on revient à la page 107, vous voyez. Alors ensuite à la page encore 107, le deuxième chapitre, les textes de la tradition, la perpétuité de la primauté de Saint-Pierre. Et là, on cite un certain nombre de textes conciliaires. Ensuite, vient le chapitre 3, vous voyez, pouvoir et nature de la primauté de Saint-Pierre. Alors là, j'insiste pas beaucoup parce que c'est le cours d'ecclésiologie qui doit évidemment reprendre cela. Et donc, avec cette idée que le pape François, dans Evangelii Gaudium, discute de nouveau... C'est-à-dire, quel est le rapport entre l'épiscopat et le pape? Étant que l'épiscopat est la représentation de toutes les églises. Et comment le pape, alors ici Vatican I dit, il a une juridiction, c'est le terme technique, immédiate sur toutes les églises. Donc ça veut dire, il peut intervenir à l'intérieur des églises. Et ça, c'est de nouveau à l'heure actuelle, je dirais, discuter comment ça se fait en concertation, vous voyez. Donc ça, c'est le troisième point, extrêmement important, évidemment, pour la vie concrète des églises, et j'ajoute notamment d'un point de vue œcuménique. Et là, on voit bien, il y a des formules dans Ecclesiarum Orientalium, et dans Unitatis Integratio, dans les deux grands textes œcuméniques du Concile Vatican II, on nuance aussi ce problème. Donc ça, c'est le chapitre 3. Et ensuite vient alors le célèbre chapitre 4, sur lequel nous allons nous concentrer, le magistère infaillible du pontife romain. Alors, regardez le plan, je dirais, du chapitre. Donc là, il s'agit de l'enseignement. De l'enseignement, de la tradition. Alors, le premier paragraphe nous fait de nouveau l'histoire. Le deuxième paragraphe est tout à fait décisif parce que c'est un paragraphe qui parle des moyens humains et qui introduit ici une distinction tout à fait décisive, entre inspiration et assistance. Retenez bien cette distinction. Je l'explique. Qu'est-ce que c'est? Je dis, seules les Écritures sont inspirées. Et donc, nous trouvons, je dirais, dans l'Église apostolique qui s'est cristallisée dans un texte, c'est-à-dire les Écritures reçues après, comme telles, nous avons la totalité de l'autorévélation de Dieu reçue, vous voyez, par l'Église. Donc après, on entre dans l'interprétation, donc recevoir ce qui est inspiré et interpréter. Et l'interprétation n'est jamais inspirée, elle est assistée par l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce que ça veut dire assister? C'est-à-dire, ceux qui interprètent sont obligés d'utiliser tous les moyens humains. Tous les moyens humains. Et en les utilisant, ils peuvent faire confiance qu'ils sont assistés par l'Esprit-Saint de trouver la bonne interprétation. Mais ce n'est qu'une interprétation de la révélation. Ce n'est pas la révélation en elle-même. Même si nous devons dire aujourd'hui que nous n'avons la révélation que d'une manière interprétée. Voilà, donc ça c'est le point essentiel, les moyens humains. Et voyez, le débat à ce moment-là consistait en ceci, est-ce que oui ou non, il faut faire entrer dans l'infaillibilité pontificale la définition, l'utilisation des moyens humains, obliger le pape de les utiliser. Et le concile va ne pas les introduire dans la définition, mais il va les exposer immédiatement avant. Alors à Vatican II, dans le numéro 25 de Lumen Gentium, vous allez voir, vous allez lire le texte, je vais vous le montrer un peu tout à l'heure, les moyens sont quasiment entrés dans la définition. Alors, c'est le paragraphe 2. Pour s'acquitter de leur charge pastorale, nos prédécesseurs ont travaillé infatigablement à la propagation de la doctrine solitaire du Christ parmi tous les peuples. Ils ont veillé avec un soin égal à sa conservation authentique et pure, là où elle avait été reçue. C'est pourquoi les évêques du monde entier, tantôt individuellement, tantôt réunis en synode, se conformant à la langue coutume des églises et aux formes de la règle antique, Vincent de Lérins, ont communiqué au Saint-Siège apostolique les dangers particuliers qui surgissaient en matière de foi pour que le dommage causé de la foi fût réparé là où elle ne saurait subir de défaillance. Les pontifs, etc. Vous voyez, ensuite viennent tous les moyens, les enquêtes, etc. Donc c'est le paragraphe 2 du chapitre 4. Alors, le chapitre, le paragraphe 3 nous dit que l'infaillibilité pontificale, mettons maintenant ça toujours entre guillemets, est un charisme de vérité, est un charisme, un don qui est fait à celui qui est dans la chair de Pierre. Ensuite, vous voyez, une deuxième introduction, mais, et ensuite vient la définition. Alors, je vais vous lire la définition et je vais brièvement la commenter et ensuite on va faire bientôt la pause. C'est pourquoi, donc vous avez le texte, nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne pour la gloire de Dieu, notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique, donc la religio catholica, voyez, donc c'est, il faut le prendre au sens le plus universel du terme, et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Saint-Concile, nous enseignons et proclamons comme un dogme révélé de Dieu. Et maintenant vient la formulation. Le pontife romain, alors maintenant viennent tout de suite les conditions. Lorsqu'il parle ex cathedra, donc en fonction, c'est-à-dire lorsque, donc c'est par exemple le mercredi quand il parle, il n'est pas ex cathedra. C'est extrêmement rare, n'est-ce pas? Et donc Gasser dira, c'est en ultime recours. En ultime recours. C'est la notion juridique que Gasser a introduit. C'est-à-dire quand dans toutes les églises sont divisées, il y a un ultime recours. Alors, la notion, elle est juste, elle n'est peut-être pas suffisante, ça demanderait un long débat, dans un cours de mariologie, concernant les deux dogmes, entre guillemets, dogme ici, je mets entre guillemets, l'Immaculée et l'Assomption. Et là encore, Vatican II les a introduits dans le chapitre 8 de Lumen Gentium, en essayant non pas de les relativiser, mais leur donnant un sens scripturaire et biblique. Mais la notion d'infaillibilité ici est liée à la notion d'ultime recours. Alors, je reviens à la définition. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, donc il faut une forme très précise, une forme de définition, hein, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être admise par toute l'Église, jouit par l'assistance divine, donc là on revient à ce terme, l'assistance divine, à lui promise en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité, laquelle, celle dont le divin rédempteur a voulu que fût pourvue son Église. Donc voyez, il s'agit de l'infaillibilité de l'Église, de la foi dont j'ai parlé tout à l'heure dans la phase précédente, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Donc on est dans l'extraordinaire, là. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables de par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Alors ça, c'était le point le plus discuté. Pourquoi ici relativiser le consentement de l'Église? C'est là où Vatican II ira certainement plus loin dans la formulation, parce que, évidemment, quand il s'agit d'un ultime recours, le consentement unanime, justement, n'est plus là. Et donc, c'est un dernier recours pour pouvoir quand même continuer à confesser, donc, la foi de Pierre, la promesse de Jésus, ta foi ne défaillera pas. Voyez. C'est ça l'idée. L'interprétation de ce texte. Quand tu seras revenu, confirme tes frères, ta foi ne défaillera pas. Mais ce qu'il faut aussi accepter, évidemment, ici, c'est-à-dire que Pierre a défailli, effectivement. Donc, il faut... À l'époque, on n'entend pas, mais à Vatican II, on entend aussi cela. Voyez. Mais il y a cette promesse ultime, si vraiment, je veux dire, vous voyez, c'est une sorte de catastrophisme dans lequel on est ici. Et ça suppose évidemment toute l'image de l'Église ultramontaine du XIXe siècle qu'on trouve dans des Filius. Mais si vraiment on arrive à ce point ultime, alors évidemment quelque chose doit se passer qui ne peut pas ultimement dépendre d'un consensus unanime. Unanime. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas consentement, quand même, voyez, le plus large possible, etc. Alors, vous voyez, il y a deux parties, deux phrases dans cette définition. La première partie, le pontife romain en fonction, ex cathedra. La forme est importante, la définition. Donc, il y a un genre littéraire. Donc, il faut qu'il dise qu'il fait cela et qu'il faut qu'il motive. Et évidemment, ce n'est pas à tout moment. Donc, il s'agit ici du magistère extraordinaire ou solennel opposé à des hérésies. Et donc, à ce moment-là, il y a l'assistance divine et il s'agit de la garantie de l'infaillibilité de l'Église. Le but, ce n'est pas l'infaillibilité pontificale, mais l'infaillibilité pontificale au service du maintien de l'infaillibilité de l'Église. L'Église ici comprise comme la catholica. Voilà. Alors ça, c'est, si vous voulez, je dirais, les insistances, les tradentes, et ici, il s'agit du tradens qu'est Pierre et ses successeurs. Et évidemment, maintenant, il s'agit du traditum, le statut irréformable des définitions, par elle-même et non en vertu du consentement de l'Église. Donc, c'est la fonction de l'ultime recours qui est décisif ici. Et donc, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui ne veut pas dire, Vatican II l'a prouvé, qu'on ne peut pas interpréter de nouveau ce qu'il est en train de le faire. Je dirais des affirmations qui en elles-mêmes sont irréformables, mais c'est des lettres, c'est des formules, c'est des textes. Et les textes n'existent qu'en étant évidemment de nouveau réinterprétés dans des nouvelles situations. Et il faut bien dire, on a eu une tendance à l'élargissement de l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire l'administration s'est rapidement pris pour l'expression de cela. On est allé jusqu'à le père Cesboué montre ça bien dans son ouvrage, son dernier ouvrage, je pense, sur l'infaillibilité, montre bien que même on a voulu déclarer infaillibles des encycliques, des choses comme ça, vous voyez. Et donc ça pose évidemment des problèmes à ce moment-là. Voilà, on va faire la pause et très rapidement, vous voyez, les deux textes essentiels de Vatican II qui remettent, si vous voulez, les choses en équilibre. Si je peux vous demander de pas trop prolonger la pause, c'est-à-dire pour qu'on ait encore suffisamment de temps pour que je puisse développer la... Alors la force du Concile Vatican II, je dirais, c'est au fond un double geste. Je dirais, c'est à la fois le geste du retour, entre guillemets, à l'Église primitive, c'est-à-dire à la deuxième phase en particulier, c'est-à-dire la figure de saint Irénée, et un geste de rééquilibrage par rapport à Vatican I, dans le chapitre 3 de Lumen Gentium, et notamment dans le numéro 25. Alors vous avez dans le dossier, donc les textes en question, je vous ai tout donné là, la page 113. Vous avez donc l'ensemble du chapitre 2 de Dei Verbum. Donc on a déjà travaillé évidemment Dei Verbum beaucoup, beaucoup. Je l'ai commenté largement à plusieurs reprises. Donc vous pouvez ici revenir à ce chapitre 2 qui réinterprète les textes du Concile de Trente et qui revient évidemment à saint Irénée. Et notamment dans cette doublure entre ce qui est transmis et les figures de la transmission, les tradentes. Donc c'est le numéro 7, le numéro 8 et le numéro 9. Et je vais surtout vous citer le numéro 10, le dernier numéro. La sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Donc, vous voyez ici le retour aux actes des apôtres. Si bien que par le maintien, la pratique et la profession de la foi transmise s'établit entre pasteurs et fidèles un remarquable accord. Alors le terme latin est ici conspiratio, ce qui ne veut évidemment pas dire conspiration, mais vous voyez, il y a quand même un aspect pneumatologique tout à fait décisif, c'est-à-dire au fond c'est le consentement à l'intérieur des églises, entre les églises et à l'intérieur de l'Église, dans l'acte de réception, et ici il s'agit évidemment de la profession de foi. Pour le maintien, la pratique et la profession de foi transmise. La charge d'interpréter, voyez là maintenant on passe au magistère, de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, donc l'écriture, et ce que l'Écriture est devenue dans l'acte d'interprétation par les Églises, a été confié au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, voilà la formule importante, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service. Et là, on revient à cette idée très fondamentale, que y compris ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale, l'ultime recours est toujours au service du consentement dans l'Église. n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, donc là on retrouve cette formule et cette distinction que j'ai déjà évoquée, il écoute cette parole, donc le magistère est d'abord en posture d'écoute. Et vous voyez, c'est le début de Dei Verbum. En écoutant religieusement et en proclamant, on retrouve ça ici. Donc c'est la première posture, ce que n'a peut-être pas, ce qu'on n'a pas souligné à Vatican I, ce qui est mis en veilleuse d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas écouté, eux aussi, et ils ont été dans une autre situation que nous aujourd'hui. Mais ils n'ont pas souligné ça. Voilà. Il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Voilà. Il est donc clair que la Sainte Tradition, la Sainte Écriture et le Magistère de l'Église, donc là vous avez les trois instances, selon le très sage dessein de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que tout ensemble, chacune à sa manière, sous l'action du seul Esprit-Saint, elle contribue efficacement au salut des âmes. Donc, il y a plusieurs instances, il y a aussi une auto-correction possible. Alors ensuite, je vous ai donné le numéro 25, Lumen Gentium. Donc, le plan du texte et les corrections, vous voyez, j'utilise ici quand même le terme un peu fort peut-être, qu'on pourrait discuter, mais je pense qu'il s'agit quand même de ça, les corrections apportées au chapitre 4 de Pastor Eternus. Il est comme recadré, ce chapitre 4 de Pastor Eternus, en étant mis dans un contexte plus large. Et au fond, il fonctionne comme une sorte de zoom. Dans le paragraphe 1, il affirme l'autorité du Christ. L'autorité du Christ. Parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'Évangile est la première. Les évêques sont en effet les héros de la foi, amenant au Christ de nouveaux disciples et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ. Prêchant au peuple qui leur a confié la foi, qui doit régler leurs pensées et leurs conduites, faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit-Saint, dégageant du trésor de la révélation le neuf et l'ancien, faisant fructifier la foi attentive à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau. Voilà, donc ça c'est le premier paragraphe. Ensuite, et s'il se termine, si vous voulez, je dirais sur une remarque sur le genre littéraire. Vous voyez la dernière phrase de ce premier paragraphe. Voilà. En conformité à ce que le magistère manifeste de sa pensée, de sa volonté, et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Donc là aussi, il y a des genres littéraires. Alors ensuite, deuxième paragraphe, on parle de l'infaillibilité du corps épiscopal. Donc ceux qui représentent l'ensemble des églises, donc notamment quand il y a un concile, mais pas uniquement. Et voyez, c'est seulement après qu'on va parler de l'infaillibilité pontificale, en insistant sur cette idée de l'ultime recours, on cite ici le texte de Mgr Gasser, donc c'est une ultime instance. Voyez, c'est comme dans une cour d'appel. La cour d'appel, vous voyez, après, à un moment donné, il n'y a plus d'appel possible. Donc, il y a l'ultime instance. Et, vous voyez, on réintroduit ici le consentement de l'Église et de l'Esprit et les moyens humains. Alors, vous voyez, ça, ce point est extrêmement important. Regardez la dernière phrase du troisième paragraphe. À ces définitions, donc, on vient de citer le chapitre 4 de Pasteur Eternus, à ces définitions, l'assentement de l'Église ne peut jamais faire défaut, étant donné l'action du même Esprit Saint qui conserve et fait progresser le troupeau entier du Christ dans l'unité de la foi. Donc là, encore une fois, on a une formulation maintenant paradoxale. il y a toujours un paradoxe entre le droit de la conscience et le consentement unanime. Ça ne va jamais de soi. Et il y a toujours un paradoxe entre l'ultime recours, la cour d'appel, ici pontificale, et l'idée, quand même, il faut un consentement. Sinon, il n'y a pas d'église. Donc, vous voyez, il y a ces paradoxes. Et l'Esprit Saint est situé ici, précisément à cet endroit-là, où il s'agit de maintenir des paradoxes. L'Esprit Saint qui est le singularisant absolu et qui est l'ecclésialisant en même temps. Voilà. C'est ça, au fond, le mystère d'une Église unie et plurielle. Unie et plurielle. Et c'est jamais acquis, hein? Mais au fond, la promesse du Christ, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire, jamais l'Église sortira de ça, si vous voulez. Sinon, il n'y a pas de révélation donnée une fois pour toutes. Ensuite, lorsque le pontife romain ou le corps des évêques avec lui porte une définition, ils le font conformément à la révélation elle-même, à laquelle tous doivent se tenir et se conformer. Tous. Révélation qui est transmise intégralement sous forme écrite ou par tradition par la succession légitime des évêques et avant tout par le soin du pontife romain lui-même. Cette révélation à la lumière de l'esprit de vérité est scrupuleusement conservée dans l'Église et fidèlement présentée. Le pontife romain et les évêques s'appliquent avec zèle à scruter consciencieusement et à énoncer correctement cette révélation. Donc, on les oblige à le faire ici, ce qu'on ne faisait pas à Vatican I. Dans la conscience de leur devoir et de la gravité de la chose, en ayant recours aux moyens appropriés. Vous voyez là, je dirais, la question des moyens rentre quasiment dans le texte doctrinal. Mais ils ne reçoivent comme appartenant au dépôt divin de la foi aucune nouvelle révélation. Non. Assistance, rien de plus. Interprétation de ce qui est donné une fois pour toutes. Voilà, si vous voulez, je dirais ce que je voulais vous dire. Je vous laisse vous-même regarder un peu le schéma. On ne va pas y revenir maintenant. Mais des règles, comment accéder finalement à ce que nous croyons à travers une interprétation. Une interprétation. Alors, dernier chapitre, je dirais maintenant très rapidement, évidemment, un peu sous forme de résumé, je vais vous dire l'essentiel, je voulais apporter une petite conclusion aussi. Donc, au cœur de cela, il y a une ultime question qui traverse, si vous voulez, l'ensemble de notre parcours depuis le début. Et c'est la question de l'historicité du christianisme, donc qui est reliée évidemment au fait, oui, de l'incarnation, on peut le dire d'une manière si rapide, de l'incarnation. Si on ne confessait pas l'incarnation, l'autocommunication de Dieu dans l'histoire des êtres humains, on n'aurait pas tous les problèmes, hein. On n'aurait pas tous les problèmes, parce qu'évidemment, je dirais, comment dire ça? C'est-à-dire, si Dieu n'a rien à voir avec l'histoire humaine, et s'il réside dans son éternité intouchable, etc., alors bon, on peut dire qu'il est toujours le même, et nous, on fait nos salades, nos histoires humaines. Mais le problème, je dirais, apparaît, et sans doute, je dirais, l'historicité, la conscience historique de l'humanité apparaît avec force, à partir du moment où on dit Dieu entre dans l'histoire. Dieu entre, voilà. Et nous entrons dans l'intimité de Dieu. Accès à l'intimité de Dieu. Dieu s'est dit, voilà, lui-même. Et pas quelque chose de lui. Il s'est dit lui-même. Qui me voit, dit le Christ johannique, voit le Père. Évidemment, une fois qu'on dit ça, que Dieu est dans l'histoire, Alors du coup, évidemment, je dirais, il y a l'interprétation nécessaire, parce qu'il y a une histoire culturelle, une histoire des nations, des continents, etc., etc. La Pentecôte, vous voyez, apparaît immédiatement comme utopie, c'est-à-dire, évidemment, tout le monde parlant sa propre langue de foi, comment s'entendre, voilà, la Pentecôte. Et donc, apparaît ici un problème fondamental qui est le problème de l'inculturation. Donc l'interprétation rime maintenant avec inculturation. Je vous ai déployé, explicité largement ces termes dans le premier chapitre de la première partie du cours. Inculturation. Et il n'y a pas d'inculturation sans créativité. Toute catéchiste ou catéchète sait ça, c'est-à-dire vous avez des enfants devant vous, si vous n'avez pas un minimum de créativité, vous n'arrivez rien à passer. Il faut attendre les cœurs des enfants et pas uniquement leur intelligence. Donc, rendre l'évangile recevable. Et ça suppose la créativité. Et donc, du coup, la tradition implique créativité. Et notamment pour ceux qui sont les tradentes. Vous vous rappelez, il y a les trois figures. La figure de quiconque, la figure du disciple, vous voyez, qui vit à partir de l'évangile, qui s'identifie au Christ, qui lit les Écritures. Saint Jérôme qui dit « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Donc, et qui devient d'une certaine manière mystiquement un alter Christus, un autre Christ. Et il y a ceux, et finalement c'est tout chrétien, nous dit le pape François, qui sont responsables de la transmission, les tradentes. Recevoir et réinterpréter tout le peuple de Dieu, avec ses autorités. Et donc là intervient donc le problème de la créativité. Et vous voyez, il faut distinguer ici quelque chose ou éviter absolument une confusion. Le peuple de Dieu a la responsabilité de rendre l'évangile recevable, crédible, recevable. Et je dis bien recevable et crédible. Et donc c'est là où se situe la créativité. Parce que toute distorsion entre la forme de la transmission et ce qui est à transmettre, c'est un Dieu qui se rend recevable dans l'histoire à travers son Fils. Toute distorsion à ce niveau-là est une contre-preuve de crédibilité. Donc vous voyez, l'inculturation, c'est l'ultime argument de crédibilité. Et c'est là où il faut éviter une confusion. Vous voyez, c'est ma dernière phrase du numéro 1. Éviter la confusion entre la non-réception en raison de la dureté du cœur et la non-réception en raison d'une proposition irrecevable. Et l'Église est continuellement tentée par la paresse, oui, d'argumenter, de dire si les autres ne reçoivent pas, bon, c'est la dureté de leur cœur, alors le problème est chez nous. Le problème est chez nous. La capacité de transmettre aujourd'hui. La paresse, c'est-à-dire ne pas vouloir se mettre, parce que c'est évidemment plus facile de répéter un catéchisme. Voilà. C'est plus facile. Des formules à apprendre par cœur. Alors, il y a un obstacle que le Concile Vatican II affronte. Deuxième point. Où est l'obstacle? Si vous voulez, l'absolutisation du modèle dogmatique. Je vous ai, dans la première partie du cours, parler des cinq mots. Voix, évangile, révélation, mystère, doctrine. Et voyez, quand vous réduisez finalement la tradition chrétienne à une doctrine, à apprendre par cœur, à toujours maintenir, il n'y a plus de créativité. Donc ça, c'est l'obstacle. Et il faut bien se rappeler ici que l'inculturation n'est pas la simple traduction de l'état ultime de la foi catholique. En Europe, le christianisme existe depuis 2000 ans. En Syrie aussi. En Antioche, etc. En Afrique, c'est pas le cas. En Amérique latine, c'est pas le cas. Dans des parties de l'Inde, en Philippines, c'est pas le cas. Sri Lanka, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que nous, il faut imposer 2000 ans d'histoire aux autres? Vous voyez? Le problème devient plus difficile encore ici. L'acculturation n'est pas la simple traduction de l'état ultime de la foi catholique. Donc, quelques petits points ici. La différence entre culture et église particulière ne relève pas d'un plus ou d'un moins. C'est pas parce que nous avons vécu le christianisme depuis 2000 ans, à Arles, par exemple, grosso modo, que c'est un plus par rapport au dernier venu. Les paraboles nous l'apprennent. Voilà. Chaque église particulière suit sa propre genèse missionnaire ou trajectoire. Et donc doit d'une certaine manière négocier, c'est ça ce que nos frères et sœurs africains, africaines font, négocier entre une forme étrangère de la foi, qui leur est venue par la propaganda fidei, par des missionnaires, et une forme indigène à trouver, la créativité. Voilà. Donc, attention, la déclaration de l'irréformabilité, c'est l'ultime formule du chapitre 4 de Pastor Eternus. Ces formules sont irréformables, ne doit pas empêcher trop rapidement ce processus créatif. Donc, quand vous partez comme aujourd'hui, comme le fait le pape François dans Evangelii Gaudium, d'une pluralité de continents, d'une pluralité de conférences épiscopales, d'une pluralité d'églises, si vous rajoutez donc l'aspect œcuménique, théologie fondamentale, non pas catholique uniquement, mais œcuménique, donc le problème c'est la reconnaissance entre les églises et le ministère de Pierre, mais des églises qui ont suivi des trajectoires différentes. Et donc on est à un niveau d'une Pentecôte, et le consentement unanime, voyez, se joue entre églises. On va retrouver le principe. Alors j'en viens ici au fond à la question peut-être la plus difficile du cours, et je vais terminer par cela, avant une brève conclusion. Et j'ai reçu aujourd'hui une question que sans doute un certain nombre d'entre vous se posent et où je tente répondre à la page 48 dans le point 3. Voilà, à la page 43, ou non, c'est pas la page, ouais, mais beaucoup plus haut, dès le départ, c'est le premier chapitre déjà de la première partie. Vous dites, la révélation de Dieu n'existe pas en dehors de sa libre réception historique. Paradosis effectivement vécu. Le corps ecclésial de la foi est la seule trace de son origine divine. Maintenant, je dirais la catholica, vous voyez. La foi, l'espérance et la charité effectivement vécues sont la seule trace de la révélation de Dieu. La seule trace de son origine divine. Comment comprendre cela? Voilà. Donc, je peux comprendre que c'est une difficulté, cette formule, mais je ne vois pas autre manière de dire les choses. Et vous voyez, j'essaye un peu de répondre ici. Du point de vue de Dieu, tout est accompli. Du point de vue de Dieu, tout est accompli. Avec l'incarnation et la réception de l'incarnation par l'Église naissante après la résurrection. Mais qui est déjà là, cette église naissante, dans les douze, dans les disciples, tout au long du chemin du Christ. Voilà. Tout est accompli. Qui me voit, voit le Père. Mais en même temps, vous voyez, s'il n'y a pas des croyants qui continuent à vivre de cela, la révélation disparaît. Et c'est ça, au fond, la radicalité de la révélation chrétienne. C'est-à-dire, nous parlons d'un Dieu qui se met entre les mains de l'homme. L'Eucharistie, c'est ça. Qui se met entre les mains de l'homme. Voilà. Et ça, ça apparaît évidemment dans des sociétés devenues totalement laïques, sécularisées, où Dieu est inévident par excellence. Si vous, tant que vous présupposez Dieu, c'est-à-dire tout le monde croit en Dieu, d'une manière ou d'une autre, tant que vous présupposez ça, cela, le problème ne se pose pas dans cette radicalité. Mais quand Dieu lui-même est devenu radicalement inévident, c'est en quelque sorte, entendez bien, en quelque sorte, c'est la foi, l'espérance et la charité qui lui donnent existence. Et là, il ne faut pas l'oublier, l'inversion, évidemment, ce que j'ai dit à propos de la doxologie, de la foi, c'est évidemment Dieu qui est l'origine de la foi, l'espérance et la charité. Et c'est en ce sens-là que la Catholica, dont on parle à partir du 14e, 15e siècle, est la trace de la révélation, l'unique trace. Alors, ces traces, évidemment, une fois que vous êtes à l'intérieur de cette unique trace, vous confessez le Christ, tout d'un coup vos yeux s'ouvrent et vous découvrez des multiples traces, évidemment, de ce Dieu dans l'histoire de l'humanité, ce que le Concile Vatican II tente de faire. Donc, du point de vue de Dieu, tout est accompli. Dieu s'est livré une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il pourrait donner plus que lui-même? En son Fils entre nos mains. C'est le texte d'Hébreux qu'on lit ces jours-ci. Mais comment comprendre ce une fois pour toutes? La théologie classique, très rapidement, situe ce une fois pour toutes dans une période de l'histoire humaine, au statut exemplaire et sacré. On chantait autrefois, quand on chantait l'Évangile, j'ai encore chanté ça en latin, « In illo tempore ». En ces temps-là, donc vous voyez, temps sacré. Et on a inventé une formule au XIXe siècle. La mort du dernier apôtre clôture le temps de la révélation et de l'inspiration et ouvre l'histoire portée par la succession apostolique et l'assistance du Saint-Esprit. Donc vous voyez, elle est une fois pour toutes close à un moment donné. Et ensuite, l'histoire continue. Alors, il y a ici une reprise inconsciente de la structure fondamentale du canon juif. Quand, après la catastrophe de l'exil, le judaïsme se refonde, donc vous avez suivi un certain nombre d'entre vous déjà l'introduction à l'Ancien Testament, il délimite un temps exemplaire, en ces temps-là, vous voyez, de révélation qui se termine avec la mort de Moïse, Deutéronome 34, texte auquel je me suis déjà référé tout à l'heure avec Jean de Ségovie. Ce qui est acquis une fois pour toutes, c'est-à-dire l'autorité divine de la loi, s'inscrit désormais dans une clôture littéraire et historique qui met le temps d'avant l'entrée dans la terre promise en position normative par rapport à la vie quotidienne de la communauté. Et on dira même dans le judaïsme, sadducéen, etc., désormais le ciel est fermé. Désormais le ciel est fermé. Il s'est ouvert au-dessus de Moïse et maintenant il est fermé. Dans le Nouveau Testament, la mort du dernier apôtre ou de tel apôtre n'est pas particulièrement digne d'intérêt. On parle de la mort de Jacques, voilà, dans les Actes. C'est tout. On ne s'intéresse pas à la mort des apôtres. Comment pourrait-on s'intéresser à la mort des apôtres après la résurrection? Les textes établissent donc une sorte de contemporanéité fraternelle. Et je crois que c'est ça que nous redécouvrons aujourd'hui. Je vous propose ce terme. Une contemporanéité fraternelle entre l'événement fondateur, la durée de Jésus-Christ, telle qu'on la trouve dans les récits évangéliques et dans les autres textes, et les disciples et les apôtres de tous les temps jusqu'à la fin des temps. À la fois les apôtres nous précèdent, ça c'est la fonction fondatrice, et en même temps nous sommes leurs contemporains. De tous les temps, il y a toujours encore des kairoi, des moments favorables, et de tous les espaces, parce que la Galilée est devenue la Galilée des nations, et la Galilée est désormais partout. Contemporanéité fraternelle, avec le début. La modernité et la postmodernité nous font sortir de l'idée de période exemplaire. Sacré, vous voyez, c'est pour ça que l'histoire nous a fait comprendre. Elle n'est pas plus sacrée, la période des apôtres, que la nôtre. Ils ne sont pas plus chanceux que nous. Ils nous aident par là, la modernité, la postmodernité, à penser une contemporanéité fraternelle entre tous les disciples et apôtres et communautés. Il n'y a pas de passé exemplaire qui appartiendrait aux églises de la Méditerranée, comme si nous aurions quelque part le privilège, même si nous aimons retourner dans ce qu'il faudrait pas trop appeler la Terre Sainte, parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Voilà. Il n'y a pas de terre privilégiée pour les chrétiens. Il n'y a pas d'espace privilégié. Les autres devant passer, alors à ce moment-là, tous devraient passer par Jérusalem ou par la Galilée ou finalement par l'Occident pour accéder à la foi. Et non. Et non. Contemporanéité fraternelle. Cela donne une nouvelle forme, je dirais, et introduit une ultime règle de discernement et une sorte de formule brève que je vous propose ici. L'unique Jésus-Christ, le Saint de Dieu, ce que je développerai l'année prochaine dans mon cours de Christologie. L'unique Jésus-Christ, le Saint de Dieu, engendre une multitude d'uniques. Une multitude unique, c'est-à-dire à la fois des consciences, une multitude de consciences, une multitude de communautés, une multitude d'églises, patriarcale éventuellement, etc., etc. Cette forme ou formule ou règle s'accorde avec le genre récit évangélique. Ce que je vais expliquer, je vais commenter la règle pour terminer. Donc l'idée de l'unicité d'abord. L'idée du temps exemplaire, que je ne maintiens plus, vise... Mais je maintiens la visée, vise à sauvegarder l'unicité de Jésus de Nazareth. L'unicité de Jésus de Nazareth. Le principe christologique que j'ai longuement développé dans la deuxième partie du cours, tu es le Saint de Dieu, le Christ. Voilà, cette confession de Pierre. La sainteté unique du Christ. L'engendrement, l'unique engendre, voilà. Le Nouveau Testament dessine une trajectoire qui va vers la disparition de la clôture. Pour ça qu'il faut qu'elle existe. Le canon des Écritures est clôturé. Mais en même temps, le canon lui-même relativise continuellement sa propre clôture. Parce qu'il fait du disciple du Christ un autre Christ. Alors ça se dit magnifiquement à partir de Jérémie 31. Donc cette extraordinaire prophétie qu'on retrouve à un certain nombre d'endroits dans le Nouveau Testament. Voilà, Jérémie 31-34. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant, apprenez à connaître le Seigneur. Car ils me connaîtront tous, petits et grands. Oracle-tu, Seigneur, je pardonnerai leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'intermédiaires. Tous connaîtront Dieu. Donc, ça c'est la promesse. Mais Galates 20, par exemple, il y a bien d'autres textes. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. On va bien. Notamment la deuxième lettre aux Corinthiens nous le montre, Paul est un autre Christ. Donc l'unicité du Christ est là, et ça c'est la clôture, mais elle est là pour engendrer d'autres comme lui. J'appelle cela le principe spirituel ou pneumatologique. Jésus, le Jésus johannique disant, c'est bien que je m'en aille. Sinon, le paraclet ne peut pas venir. C'est lui qui vous introduira dans toute la vérité. Et donc, multitude d'uniques, si dans le judaïsme rabbinique notamment, mais avant déjà sacerdotal, le ciel est fermé, le récit du baptême du Christ nous montre l'ouverture du ciel. L'ouverture du ciel. Donc c'est la révélation. Et la mystérieuse autorévélation de Dieu comme évangile, l'ouverture du ciel, dans le jeu différencié de relations entre Jésus et quiconque, et non pas seulement entre Jésus et les apôtres, non pas seulement entre Jésus et les disciples, mais entre Jésus et quiconque. Jésus et ses disciples et Jésus ses apôtres, voilà. Donc j'appelle ça le principe eschatologique ou théologique, Dieu se révélant lui-même dans ce jeu relationnel, qui est le jeu relationnel de l'Église au service de quiconque. Voilà, donc ça, ça implique évidemment la créativité, parce que dès que l'histoire de l'humanité continue, il y a encore des quiconques qui naissent, et donc, voilà, l'histoire continue. Alors, une très brève conclusion, juste pour souligner, si vous voulez, trois points, rapidement. Donc, le rapport entre la théologie fondamentale, telle qu'elle vient d'être développée, et la pratique pastorale, donc ce célèbre principe de pastoralité que nous devons à Jean 23, et qui est au fond, on pourrait dire, le principe de la recevabilité. Quand Jean 23 dit « il ne s'agit pas de rajouter des nouveaux dogmes », mais le problème c'est la réception, et le problème c'est l'interprétation aujourd'hui, donc au fond c'est le principe de la recevabilité. Et donc, il y a peut-être trois choses que nous pouvons apprendre d'un parcours de théologie fondamentale pour la pastorale. Premièrement, j'insiste beaucoup là-dessus, la nécessité du diagnostic du moment présent. C'est une affaire complexe, nous le voyons bien encore ces jours-ci. Comment interpréter ce qui arrive? Donc, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans le chapitre 3 de l'introduction, en vous montrant comment la sociologie intervient ici, comment l'histoire intervient ici, comment la philosophie intervient ici, mais en dernière instance, le discernement du moment présent d'un point de vue théologique est un discernement de recevabilité. Quelles sont les failles, d'une certaine manière, dans une société, dans une culture donnée, où l'Évangile peut être entendu. Voilà. Le discernement des signes des temps. Alors ensuite, il est extrêmement important pour la pastorale, et là où intervient la définition de l'Évangile, que j'ai répété à plusieurs reprises, vous l'aurez trouvé à la page 21, les trois figures de réception. D'abord quiconque, le disciple et l'apôtre. Et les trois, si vous voulez, sont, c'est des frontières, des limites poreuses, des passages. Ce que quiconque peut retenir d'un parcours comme celui-ci, je l'aurais dit dans une seule formule, peut-être ce qui est au cœur de la tradition chrétienne et ce que nous espérons de quiconque, une attitude de gratuité. Voilà, de gratitude. Peut-être la tradition chrétienne espère-t-elle qu'en tout être humain, quelque chose comme une gratitude par rapport à la vie puisse naître. Et donc ça suppose du côté de la tradition chrétienne sa gratuité. C'est-à-dire elle n'est pas tournée vers elle-même, mais elle est tournée vers tout être humain. Vers tout être humain. La capacité de désigner la sainteté anonyme, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est un premier point, le décentrement vers quiconque. Ce que les disciples peuvent retenir, l'appel à fonder son existence sur l'axe même de la proposition chrétienne, à savoir la connaissance intérieure de Jésus-Christ et les Écritures, ainsi que l'invitation à témoigner par sa propre forme de vie de la vérité ultime du monde de la Bible, au sein des multiples mondes culturels dans notre postmodernité. Le monde de la Bible, on y entre, deuxième partie du cours, pour rendre le monde habitable, pour vous rappeler de cette formule. Donc c'est la fonction herméneutique et la fonction apologétique. L'apôtre responsable de la transmission, c'est un sacré seuil à mon avis aujourd'hui. Qui, en tel lieu, seront responsables, s'éprouvent responsables de la transmission de la foi. L'apôtre responsable de la transmission peut retenir du parcours une manière de proposer la foi, de la rendre crédible, mettez une virgule, voilà, manière de proposer la foi, de la rendre crédible en s'intéressant à la diversité des sujets récepteurs. Et là, je vous renvoie à ce magnifique texte, je ne vais pas le lire maintenant, 1 Corinthiens 9, voilà, quand Paul nous dit, voilà, j'aurais mérité un salaire, mais finalement mon seul salaire, c'est d'annoncer l'évangile. Voilà. Donc c'est la gratuité de cette annonce, avec cette extraordinaire formule reprise à plusieurs reprises par Vatican II, malheur à moi, si je n'évangélise pas. Donc c'est l'acte lui-même de l'évangélisation et de la transmission qui est sa propre récompense, si je puis dire. Donc on peut définir la pastorale, l'art de discerner et d'accompagner le travail de Dieu en quiconque, entre les disciples, dans les groupes des apôtres, et pour cela il faut des règles de discernement. Et un cours de fondamental, finalement, donne des règles pour discerner l'accès et l'interprétation à la foi. Alors, ultime réserve, ou je dirais avertissement, la théologie fondamentale ne doit pas être confondue avec la pratique pastorale. La théorie et la pratique sont d'un ordre différent, mais sont à articuler, et donc c'est la définition de la théologie qui intervient de nouveau ici, telle que je l'ai proposée la dernière fois. Voilà, donc on a terminé. Alors on a encore 7-8 minutes sur ma montre. Donc s'il y a une question ou deux, je peux encore réagir. Et ensuite, je pense qu'il y a des étudiants qui ont organisé aussi pour les étudiants, je pense, une séance un peu de questions. On verra ça dans la suite. Oui. 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 Ah, mais bien sûr. Il y a une... Oui. Alors, si on entre un peu dans cette question-là, il y a une circularité ici, ou une implication mutuelle des deux, évidemment. Ma formule le dit peut-être pas assez. J'espère, si je reprends maintenant l'autre versant, que vous avez entendu au moins un certain nombre de fois que ce que j'appelle la théologie fondamentale, telle que je l'ai proposée, est greffé évidemment sur une pratique pastorale. Mais une pratique pastorale devrait maintenant entrer dans beaucoup plus de détails. Et elle est toujours située, on ne peut pas la transformer en théorie, si vous voulez. Il faudrait voir ici et maintenant, dans telle et telle école, qui est quiconque, qui sont les disciples, qui sont là-dedans des apôtres, etc. Comment ça fonctionne effectivement? Vous voyez, ça c'est la pratique, et qui est présupposée. Alors, la théologie fondamentale, c'est une réflexion sur la pratique qui la présuppose, qui va l'enrichir inversement, la pratique de nouveau. Mais en proposant des catégories, vous voyez, autour de trois questions extrêmement simples, finalement la foi chrétienne c'est quoi? Pourquoi y accéder? Et comment? Voilà. Est-ce que ça va comme réaction? Voilà. Oui. C'est-à-dire, il faut voir, n'est-ce pas, chez Vatimo, à la fois c'est extrêmement complexe parce qu'il a plusieurs fois bougé dans son histoire, vous le savez peut-être, et je dirais ce qu'il appelle un christianisme non religieux, il faudrait ici préciser exactement ce qu'on dit, on dit par là. Le premier, au fond, à mon avis, qui introduit déjà cette distinction, c'est Karl Barth. Parce que, oui, parce que, et je dirais, même chez Vatimo, il y a toujours un peu cette inspiration. Vous retrouvez la même idée chez Joseph Moin. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui parcourt. C'est pas nécessairement une dissolution. Mais c'est, au fond, une manière de souligner, on pourrait dire, et c'est ça ce qui est important chez Vatimo, ce qu'on appelle parfois maintenant un nouveau humanisme. C'est-à-dire que la tradition chrétienne nous dit quelque chose de l'être humain. Vous voyez, le concile de Chalcédoine, quand il dit « vrai homme et vrai Dieu », le Christ nous dit quelque chose, je développe ça longuement dans mon cours d'anthropologie, nous dit quelque chose de l'homme. Et l'homme n'est pas nécessairement religieux. C'est plus large. On le voit bien aujourd'hui. C'est plus large. Et dans la religion, évidemment, ce qu'on appelle maintenant la religion, parce qu'on en parle tellement depuis quelques jours, vous voyez, si vous prenez l'acception religion au sens de Charlie Hebdo, évidemment, ça rime immédiatement avec violence. Oui. Alors du coup, évidemment, il faut éliminer la religion, parce qu'on élimine la violence. Mais religion ne dit pas nécessairement, je dirais, cette formulation extrême. Ça peut être aussi simplement la liturgie. Il y a quelque chose, une forme religieuse dans la liturgie. Voilà, mais la foi chrétienne ne se réduit pas à la liturgie ou la forme religieuse. C'est-à-dire une liturgie qui n'est pas en même temps au service diaconal, c'est-à-dire par rapport au dernier dans la société, voyez, vous avez une liturgie qui est déformée. Et donc, vous retenez la liturgie uniquement la forme religieuse, mais pas sa visée, sa finalité, qui est double, qui est la louange de Dieu et le service de l'homme. Donc, il y a de toute façon ici un discernement concernant la forme même que prend la foi chrétienne. Alors, qu'on peut comprendre Vatimo dans ce sens-là, mais on peut aussi l'interpréter d'une autre manière, et c'est là où il y a des ambiguïtés, à mon avis. Je vous ai utilisé déjà le terme « retraitement des déchets ». Vous avez un certain nombre de gens qui se réfèrent à la tradition chrétienne, mais qui disent « vos mythes et vos histoires sur Jésus-Christ, vous pouvez ça garder pour vous ». Ce qui nous intéresse, c'est l'éthique véhiculée par le christianisme. Moi, j'appelle ça « retraitement des déchets ». Ça, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire on maintient ce qu'on peut intégrer. Mais il y a de l'inintégrable dans la tradition chrétienne. La croix, on ne peut pas l'intégrer comme ça. Ça résiste. Ça résiste. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu, parce que je ne veux pas entrer avec vous maintenant dans une exégèse de Vatimo qui est complexe. Voilà. Et ce n'est plus le moment. Est-ce qu'il y a une ultime question? Donc, le silence dit bien qu'il faut terminer et toute chose a une fin. Voilà, continuez bien, bon travail, voilà. Excusez-moi, j'ai oublié une chose. Est-ce que quelqu'un peut mettre au bout les feuilles d'évaluation? C'est un peu le rite dans la maison, donc à la fin, s'il vous plaît, prenez-les et comme ça vous réagissez un peu. C'est à la fois important pour le directeur du premier cycle, c'est important aussi pour moi de voir un peu quelques réactions. Voilà. Donc merci bien.